Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Aujourd'hui, c'est l'enfant terrible de la peinture vénitienne que nous rencontrons, Tintoret, à l'occasion de l'exposition Tintoret, naissance d'un génie, qui se tient du 7 mars au 1er juillet de cette année, au musée du Luxembourg. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir des invités de marque, évidemment, Cécile Maisonneuve. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, spécialiste de la Renaissance italienne, conseillère scientifique de la Réunion des musées nationaux au Grand Palais. Vous avez été commissaire associé de cette exposition.
Tout à fait.
Et là, Vous êtes en train de finir, de déballer les tableaux. Les caisses commencent à partir, j'espère.
Oui, nous commençons à aspirer la moquette pour l'arrivée des visiteurs.
Ça, c'est bon signe, hein, c'est que ça veut dire que vous n'avez rien cassé, que tout va bien, je m'en réjouis. Et alors, vous avez été accompagné dans cette aventure par Michel Hochmann. Bonjour Michel.
Bonjour.
Vous êtes historien d'art, directeur d'études à l'école pratique d'autres études, spécialiste de la peinture vénitienne. On ne devrait pas dire spécialiste, on devrait dire obsédé par Venise et la peinture vénitienne, n'est-ce pas ?
Je travaille pratiquement uniquement là-dessus, oui.
Vous préparez un nouveau livre sur Venise, ça s'appelle Métier de peintre.
Ça sera un livre consacré au métier de peintre à Venise au XVIe siècle.
Alors, les amateurs d'art savent qu'on vous doit de nombreux ouvrages, peintres et commanditaires à Venise, Rome-Venise 1500-1600, Colorito, la technique des peintres vénitiens. Mais je sais que vous connaissez bien d'autres choses parce que vous vous intéressez à l'ensemble des relations que Venise a à ce moment-là et probablement des relations avec le monde entier, non ? Le monde connu en tout cas.
Oui, évidemment, c'est Venise était un des principaux centres commerciaux de l'Europe depuis le Moyen-Âge et effectivement avait des réseaux à peu près dans le monde entier, oui.
Mais pourtant, la période dont on va parler avec Tintoret, ce personnage extraordinaire, haut en couleur, c'est un peu un démon d'ailleurs de la peinture à cette époque-là, en tout cas il est saisi par le démon de la peinture. Cette période de Venise au début du XVIe siècle, c'est plutôt une grande période de déclin, non ?
Oui, c'est une analyse effectivement qu'on a souvent proposée, que c'est une période, où l'économie vénitienne connaît un certain repli. Il faut cependant remarquer que, comme l'avait déjà dit Fernand Braudel, ce repli commercial est compensé par une extraordinaire expansion industrielle. Et Venise devient une grande ville industrielle à cette période-là, ce qui fait qu'il y a de grands marchands qui s'y installent, il y a des fortunes qui y sont constituées, qui vont se consacrer aussi au mécénat. Ce qui explique cette extraordinaire floraison artistique que constitue le XVIe siècle et probablement une des grandes périodes d'apogée de la ville de ce point de vue-là.
Mais que je comprenne bien, ce que l'on suppose être le déclin de Venise, au fond, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce mot, c'est plutôt un empêchement. La Méditerranée n'est plus la grande voie commerciale. Je suppose que le monde musulman a pris possession de cette mer. Et puis, il y a les routes vers la Nouvelle-Amérique et vers l'Inde.
En effet, les grands axes commerciaux se déplacent avec les grandes découvertes de la fin du XVe siècle. Mais il n'empêche quand même que Venise continue, encore une fois, à avoir un rôle très important, en particulier à cause justement de ses relations et de ses conflits avec la Turquie. Et d'autre part, comme je l'ai dit, il y a cette grande expansion du côté des manufactures, du côté de l'industrie, qui compense en partie ce déclin. Donc Braudel a bien montré que certes, la ville décline de manière relative par rapport à d'autres grands centres qui se créent à ce moment-là, comme Anvers, mais il n'empêche qu'elle reste quand même encore une grande puissance du point de vue économique, même si elle n'a plus peut-être ce grand monopole qui a été le sien jusqu'au XVe siècle, disons.
Alors, mon troisième invité, je vous le présente, Guillaume Casgrain. Bonjour Guillaume, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien.
Alors, nous vous connaissons dans cette émission, puisque vous étiez venu présenter votre dernier ouvrage sur les figurations des apparitions miraculeuses dans la peinture italienne de la Renaissance, qui est un très beau livre dont on a parlé ensemble et qui a fasciné, je crois, nos auditeurs. Vous êtes aussi l'auteur d'ouvrages sur la coulure, histoire de la peinture en mouvement, ou encore Roland Barthes, ou l'image advenue chez Azan, etc. Mais vous avez surtout publié, et c'est pour ça que vous êtes ici avec nous, En 2010, une remarquable et assez augurale, au fond, inaugurale biographie, monographie sur le Tintoret chez Azan, qui vient d'être rééditée, si j'ai bien compris.
Rééditée, je ne sais pas, mais qui est encore disponible. Donc,
vous voulez dire que vous n'avez pas épuisé le premier tirage?
Je ne pense pas, malheureusement.
Ah zut. Mais donc, il y a eu un grand silence. D'ailleurs, je vais commencer à vous interroger pour cela. Au fond, Tintoret, grande figure de la peinture vénitienne, à l'évidence aujourd'hui, à une période mal aimée. Longhi, par exemple, grand historien, considéré que c'est un artiste plutôt faible. Il n'a pas été admiré comme Titien a pu l'être.
Bah, il a été admiré quand même au XVIe siècle. Il est tout à fait reconnu, il est cité dans les textes. Ce n'est pas du tout un peintre marginal hein, pour l'art vénitien.
Mais pourquoi peu de travaux alors sur lui?
Ben après ça tient aux orientations, aux présupposés des historiens de l'art contemporain et de la façon dont l'histoire de l'art s'est construite. Et je pense que le travail que Panofsky a pu faire sur Titien, la mise en valeur de Titien par sa culture, que Panofsky arrivait à déceler grâce à sa science iconographique, a transformé Titien en un modèle indépassable et a plongé dans le noir beaucoup d'autres artistes qui n'étaient pas conformes à ce qu'était l'esthétique de Titien. Donc, l'image de Tintoret s'est un peu construite en creux dans cette image sublime qu'on pouvait donner de Titien, et que après toutes les expositions, c'était toujours Titien qui l'emportait, Véronèse évidemment, parce que Véronèse est plus proche de Titien que n'a été Tintoret stylistiquement. Et donc Tintoret a toujours pâti de ce type.
Alors l'opposition Titien-Tintoret, c'est en fait une succession, puisque c'est une succession dans le temps. Titien est largement l'aîné, et peut-être même le professeur. Alors il y a des débats sur cette question. Et Cécile Maisonneuve, il y a une légende. C'est-à-dire, comme chaque fois quand on raconte la vie des grands artistes, il y a une légende. La légende, c'est il était dans l'atelier et il est parti tout de suite. Pourquoi?
Ah ben ça c'est l'histoire, c'est la petite histoire que raconte Ridolfi au XVIIe siècle. Après, on le sait bien que ces biographies sont faites aussi de beaucoup de petites histoires qui sont des topos.
Racontez-nous ce qu'on dit.
Ce qu'on dit brièvement, c'est que Tintoret serait arrivé dans l'atelier de Titien et en aurait été éjecté au bout de quelques jours. On a presque envie de dire à coups de pied dans le derrière, parce que le maître prenait ombrage, soi-disant bien sûr, du talent de ce jeune artiste.
Et en fait, on n'est pas certain qu'il ait étudié avec Titien.
Non, on n'est pas du tout certain de ce fait. Il y a beaucoup d'historiens de l'art qui pensent plutôt aujourd'hui que le véritable maître de Tintoret serait Bonifacio dei Pitati.
Alors que le grand public et moi-même d'ailleurs ne le connaissons pas.
Qui est un peintre effectivement beaucoup moins connu du grand public.
Michel Hochmann, alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment commence un peintre comme le Tintoret, qui est sans doute doué, mais alors peut-être disons déjà qu'il s'appelle le Tintoret, pourquoi? Parce que ce n'est pas son vrai nom.
Il était le fils d'un teinturier, donc d'où le nom effectivement de petit teinturier.
Il semblerait qu'il ait réclamé ce sobriquet, qu'il l'ait clamé plus exactement.
Enfin, il signe en tout cas comme ça, dans quelques tableaux, et en effet, c'est une espèce de revendication. On dit, là aussi, ce sont les sources, on ne sait pas dans quelle mesure, il y a une part de légende, mais on dit qu'il aurait réclamé justement cette origine populaire face aux prétentions aristocratiques d'autres artistes, comme Titien par exemple, qui se présentait comme chevalier anobli par Charles Quint.
Mais ça ne doit pas être facile de se faire connaître quand on est un artiste qui ne vient pas d'une famille d'artistes, qui n'est pas au fond dans le sérail, si je puis dire. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'il va, lui qui est turbulent, qui est ambitieux, et on racontera cette histoire, mais comment est-ce qu'il se débrouille pour se faire remarquer?
Alors d'abord, il faut dire qu'il devait être extraordinairement doué, puisqu'on a des documents qui nous montrent qu'il était installé, qu'il avait son atelier dès l'âge de 18-19 ans, ce qui est extrêmement tôt, donc ça veut dire qu'il avait probablement des capacités assez remarquables. Et là aussi, les sources nous racontent que très tôt, il a utilisé tous les moyens pour se faire connaître. connaître, en particulier en vendant ou en exposant ses tableaux dans les rues, comme le faisaient certains jeunes artistes qui étaient en rupture justement de banc, si je puis dire, qui avaient quitté leur maître et qui voulaient trouver d'autres moyens de s'imposer sur la scène vénitienne, ou également en demandant aux maçons de lui laisser peindre des façades pour pouvoir ainsi montrer ses peintures au public, des peintures qui étaient en effet extraordinairement spectaculaires déjà.
C'est presque du street art alors.
Oui, c'est pratiquement du street art, exactement.
Mais alors, les peintures dont vous parlez, qu'il peint au fond Place Saint-Marc ou dans les cœurs battants de la ville, est-ce que c'est ces fameux cassonnets, ces coffres de mariage qui étaient peints souvent par des peintres, pas toujours des grands peintres, des futurs peintres, dirais-je?
Non, il y avait les peintres de Cassogne étaient une profession déjà assez bien délimitée au sein de la corporation vénitienne et qui se regroupait essentiellement sous les portiques de la Place Saint-Marc. Et c'était effectivement une peinture en gros. On a des documents qui nous montrent qu'ils étaient capables de peindre 3 ou 4 caisses, si je puis dire, ou coffres par jour. Donc ce que nous disent les sources, c'est que Tintoret se serait allié à eux, justement, pour pouvoir trouver du travail, mais qu'il aurait aussi appris à leur côté une façon de peindre extraordinairement rapide, puisque précisément, il devait fournir énormément de quantités de marchandises dans des délais très brefs. Et c'est vrai que cette technique très rapide l'aurait aidé plus tard à adopter cette touche extraordinairement libre qui lui permettait de couvrir des surfaces peintes de beaucoup supérieures à ce que faisaient ses prédécesseurs.
Guillaume Casgrain, cette vitesse en Italie, elle avait un nom, la prestezza, je crois. C'était une qualité ou un défaut ?
Alors ça, c'était un grand débat à la Renaissance, parce que ça témoigne d'une transformation du statut de l'artiste et du rapport à la création, et qui n'est pas réglé dans ces années-là, qui le sera même pas complètement à la fin du XVIe siècle, puisque la rapidité est en même temps la marque du génie, d'une inspiration soudaine qui fait qu'on n'a pas besoin de travailler longtemps, de réfléchir. Comme le disait Rabelais, ça sent trop l'huile. Donc, c'est ennuyeux quand on voit que le travail est derrière. Mais en même temps, ça veut dire qu'on manque de technique, n'importe qui pourrait faire ça. Michel-Ange, par exemple, est très ambivalent sur cette question. Il est d'accord sur l'idée que la rapidité permettrait de marquer une élection particulière, mais qu'elle laisse la porte ouverte aussi à l'amateurisme. Donc, Tintoret a souffert de ça aussi. On lui a beaucoup reproché.
Est-ce qu'on peut associer il y a deux mots souvent utilisés, la prestezza et la sprezzatura. Est-ce que ces deux mots qu'on peut associer, qui ont une relation l'une avec l'autre, sprezzatura, c'est plutôt la désinvolture, si je comprends bien, qui est considérée comme une élégance ou pas?
Oui, c'est de la nonchalance. Mais la sprezzatura vient des conventions sociales. Donc c'est pas un concept esthétique à l'origine. On le voit apparaître chez Castiglione, c'est-à-dire c'est une façon de
dans
se comporter dans le monde.
Le qui est d'ailleurs contemporain à peu près de la carrière du Tintoret, me semble-t-il.
Donc il ne faut pas, en société, il faut être capable de faire des bons mots, mais qu'on ait l'impression que ces bons mots viennent comme ça, sous une inspiration merveilleuse, alors que Castiglione le dit bien, il faut les avoir préparés la veille, chez soi, avoir pensé à ce qu'on pourrait faire.
Il faut avoir de l'esprit, mais il faut bien le...
faut le travailler.
Il faut avoir l'air spontané, mais c'est un petit peu artificiel. Cécile Maisonneuve, vous qui donc préparez cette exposition qui a d'abord eu lieu à Cologne, au Wallraf, je crois, à Cologne.
Voilà, tout à fait.
Vous êtes concentré sur le début de la carrière de Tintoret. Le début de la carrière de Tintoret, c'est quoi? Les premiers tableaux, on les connaît quoi? Vers 1630, 1635?
37-38, l'adoration des mages du Prado.
Donc 20 ans, il a 20 ans à peu près?
Et à peine. Oui. 18-19 ans. Et en l'occurrence, cette première œuvre, c'est une œuvre qui est encore assez ancrée dans la tradition. On sent qu'il est encore tributaire de certains schémas de composition. Mais on sent dans cette œuvre le potentiel de ce jeune artiste. On sent qu'il y a un dynamisme nouveau, qu'il regarde aussi du côté de la peinture très contemporaine, du côté de Titien. On voit qu'il emprunte une figure au centre de la composition, une figure en mouvement, qui vient donner à cette composition, globalement assez traditionnelle, un dynamisme complètement nouveau. Et une énergie fulgurante qui va être vraiment sa marque de fabrique par la suite.
Alors on va se lancer dans l'exploration de cette carrière, mais écoutons ce que dit évidemment l'éternel biographe des grands artistes de cette période, Vasari.
Environ à la même époque, travaillait à Venise, où il vit encore, un peintre nommé Jacopo Tintoretto, qui prend plaisir à cultiver tous les arts, et en particulier la musique, jouant lui-même de divers instruments. Tout ce qu'il fait plaît. Mais dans le domaine de la peinture, c'est un être extravagant, prompt et résolu, capricieux. Le cerveau le plus terrible qu'ait jamais connu cet art. Il a ainsi outrepassé l'extravagance et la bizarrerie de ses inventions. Et par l'étrangeté des fantaisies qu'il a réalisées au hasard et sans dessein préconçu, ayant l'air de démontrer que l'art de la peinture est un jeu. Giorgio Vasari, 1568.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière et nous explorons la vie fantasque, extravagante d'un personnage capricieux, prompt et résolu, nous dit Vasari, qui est Tintoretto, le Tintoret. Je suis avec Cécile Maisonneuve, donc historienne de l'art, et qui me disait à l'instant que son premier tableau, au fond, était assez sage, si je comprends bien, ou bien on sentait déjà...
C'est une composition assez sage, assez traditionnelle de base.
L'adoration des mages, disiez-vous.
L'adoration des mages.
C'est un sujet classique.
Type assez traditionnel de peinture, mais déjà quand même une énergie, un dynamisme dans la manière de représenter certains personnages.
Alors vous avez dit un mot difficile, manière. C'est très important ce mot parce que évidemment, quand on vous dit manière, on pense maniérisme. Ça veut dire qu'il imite quoi ? Il imite les personnages ou il imite la peinture de son temps ?
Il imite la peinture de son temps. Tintoret est un artiste qui emprunte beaucoup aux artistes de son époque, à commencer par Titien qu'il cherche à égaler à Venise, avec lequel il se place en concurrence. Mais c'est un artiste qui regarde aussi tous azimuts.
Pardon, Titien, ils ont à peu près quel écart d'âge? Parce que Titien est quand même déjà très arrivé. Ils ont une trentaine d'années de différence, 40 ans.
Une bonne génération d'écart.
Oui, plus de 30 ans. Donc c'est audacieux, c'est un monument Titien déjà.
Titien est le peintre, le premier peintre de Venise à cette époque. Mais Tintoret ne regarde pas que Titien.
Vous voulez dire qu'il regarderait vers Rome aussi?
Il regarde beaucoup vers Rome, vers Florence. Il sympathise d'ailleurs à Venise avec les artistes qui viennent de ces régions, avec Sansovino d'une part. Il rencontre très certainement Serlio aussi, qui est de passage à Venise dans les années 30.
Qui est architecte, si je ne me trompe.
Qui est architecte, tout à fait.
Et donc, dont on retrouvera dans quelques peintures, peut-être, des architectures.
Des citations très précises des traités de Serlio, dont certains sont édités à Venise par Marcolini, qui est un éditeur proche de Tintoret.
C'est pas les chocolats.
Ah non, c'est pas les chocolats.
Ils sont très bons aussi, d'ailleurs, mais bon, pardon. Donc, revenons à l'époque. Michel Hochmann, Cécile nous disait qu'il voyait donc Serlio qui passait là et d'autres, j'imagine. Mais au fond, lui-même, a-t-il voyagé? Est-il allé voir? Quelle est sa curiosité? Et qu'est-ce qu'on peut voir quand on est un jeune artiste à Venise en 1630?
En 1530. Alors, pour la question des voyages, c'est une question qui a été très débattue puisque beaucoup d'historiens cherchent à reconstituer le style d'un maître en imaginant justement différentes pérégrinations, si je puis dire. Et donc, une des grandes questions qu'on a posées, c'est de savoir s'il est allé ou non à Rome. Je pense pas qu'il y soit allé. Aujourd'hui, la plupart des historiens, je crois, ne pensent plus qu'il y soit allé. Mais en effet, il avait à Venise même.
C'est-à-dire qu'il n'a pas vu la Sixtine, au fond. C'est à ça qu'on se demande.
Probablement
quand
pas.
Quand on pense Manieri, Michel-Ange.
Probablement pas, mais on sait que c'est une période où beaucoup de témoignages de l'art de Rome, et en particulier de Michel-Ange, arrivent à Venise. Il y a une vraie passion pour Michel-Ange à Venise dans ces années-là.
Michel-Ange est venu à Venise ?
Michel-Ange vient à Venise à plusieurs reprises, et la dernière fois, il vient en 1529, donc juste après le sac. Non, là, je pense qu'à l'époque, il avait, disons, 11 ans, donc c'est peu probable qu'ils se soient rencontrés. Mais il n'en demeure pas moins que les Vénitiens sont passionnés par Michel-Ange, et donc font venir des dessins dessins ou des copies des œuvres de Michel-Ange. Et sans doute assez tôt, il a réussi à se procurer des petites maquettes ou des petits modèles réduits des sculptures de la chapelle des tombeaux des Médicis de Michel-Ange. Donc il a très vite acquis des modèles d'après lesquels
parce
il a
que,
dessiné.
Parce que c'est un petit peu ça, la tradition de l'artiste, c'est qu'il s'entoure, et d'ailleurs je crois même qu'en ce qui le concerne, il y a eu un don qu'il a voulu faire, ou son fils a voulu faire à la République de Venise ou aux prochains artistes de Venise, de son atelier avec des sculptures, oui. des moulages.
Il avait
des...
une extraordinaire collection de sculptures et de moulages. Et
de gravures peut-être.
Et sans doute aussi de gravures, ça on a moins d'éléments, mais sur les moulages on a quand même beaucoup d'éléments puisqu'il les a dessinés et fait dessiner par ses élèves, donc on a beaucoup de dessins d'après ses collections. Et en effet, comme vous le rappeliez, c'était une véritable académie privée et son fils, bien des années plus tard, a songé à faire de cette académie privée une académie publique en donnant toute cette collection à la Corporation des peintres de Venise. Ça ne s'est pas fait en raison de disputes entre Domenico Tintoretto, le fils de Tintoretto, et la Corporation.
Artiste
mais c'était un projet,
ouais.
Artiste lui-même, mais c'était un projet en effet qui montre bien à quel point ce matériel pédagogique a été important pour l'atelier de Tintoretto.
Guillaume Casgrain, quand on regarde les tableaux de Tintoretto, on a l'impression d'une météorologie très particulière. Ça monte, ça descend, ça chute, ça se renvoie, ça sort du tableau. C'est comme si le plan était presque incapable de tenir la totalité des énergies qui se trouvent à l'intérieur. Est-ce que c'est une singularité de l'époque? Est-ce que c'est un stratagème? Est-ce que ça le différencie de sa période? Et je pense particulièrement à un tableau qui, je crois, est assez célèbre dans le cycle de Saint-Marc, où on voit... Saint-Marc, comme ça, descendre du ciel et essayer
dans le miracle
miracle de Saint-Marc, hein. Essayer de
venir
sauver
secours,
en tout cas, venir au secours d'un esclave
qui est martyrisé.
Qui
ouais. Voilà. Oui.
Vous pouvez nous décrire un peu ce tableau?
C'est un tableau magnifique, puisque on pourrait dire que c'est un tableau manifeste, un des premiers tableaux publics réalisés par Tintoret pour la Scuola Grande di San Marco, et qui peut aussi nous dire ce qu'était le goût à Venise à cette époque-là, parce que c'est un tableau qui a pas tellement plu à la confrérie de Saint-Marc. Il a même refusé dans un premier temps, et il y avait des choix plastiques, sans doute de la part de Tintoret, qui heurtaient le classicisme ou la tradition locale. Donc tout ce que vous décrivez sur le travail sur le plan, et qui fait d'ailleurs que Tintoret est un artiste très apprécié des peintres contemporains, parce qu'on retrouve des problématiques que les artistes contemporains ont pu développer par la suite. Et Tintoret est un peintre de peintres, même s'il est peu connu encore du grand public, peut-être moins apprécié que Titien, les artistes aiment beaucoup Tintoret. Donc lui, il a travaillé, à mon avis, volontairement, hein, comme un moyen de créer une sorte de polémique avec l'esthétique ambiante, et notamment l'esthétique de Titien, qui travaillait plutôt sur la surface, sur la qualité tactile du colorito. Titien a employé très rarement la perspective, et Tintoret a du coup exploité cette science de la perspective, qui était aussi teintée de l'art de Toscane et de Rome, plus que de Venise, parce que organisé par le dessin. Et il a utilisé cette perspective pour dynamiser ses compositions et pour perturber le rapport entre la surface et la profondeur, donc avec des personnages qui semblent sortir de la toile, ou des personnages qui rentrent, comme ce fameux Saint-Marc, qui semble plonger depuis l'extérieur de la toile, avec ce fameux doigt de pied qui vient gratter la toile, comme le disait Sartre.
Alors, on va revenir à ce colorito, puisque nous avons un spécialiste du colorito à bord. Mais avant, écoutons ce que dit Théophile Gautier dans son voyage en Italie de 1855 sur Saint-Marc.
Tintoret est le roi des violents. Il a une fougue de composition, une furie de brosse, une audace de raccourci incroyable. Et le Saint-Marc peut passer pour l'une de ses toiles les plus hardies et les plus féroces. Les curieux se regardent et chuchotent étonnés. Le juge se penche du haut du tribunal pour voir pourquoi l'on n'exécute pas ses ordres. Tandis que Saint-Marc, dans un des raccourcis les plus violemment strapassés que la peinture ait jamais risqué, pique une tête du ciel et fait un plongeon sur la terre, sans nuages, sans ailes, sans chérubins, sans aucun des moyens aérostatiques employés ordinairement dans les tableaux de sainteté, et vient délivrer celui qui a eu foi en lui. Cela est violent, mélodramatique, mais revêtu d'une qualité suprême de force. Théophile Gautier, 1855.
Vous écoutez L'Art et la Matière sur France Culture, bien sûr, et nous sommes en train d'explorer la vie incroyable de Tintoret à l'occasion de l'exposition sur sa jeunesse qui se prépare au Musée du Luxembourg. Et je suis avec Cécile Maisonneuve. Et Cécile Maisonneuve, vous avez compris ce que ça voulait dire lorsque Théophile Gautier nous dit des raccourcis les plus violemment strapassés. C'est un drôle de mot, un petit peu du passé, justement, mais...
Oui, mais je pense que quand on regarde les œuvres de Tintoret, quand on regarde justement ces raccourcis audacieux qui parsèment ces peintures, je crois qu'on visualise mieux ce que Théophile Gautier a voulu nous dire.
Parce qu'il est toujours stupéfiant, Michel Hochmann.
Non, oui, pour le mot strapasser, enfin, ça vient de l'italien. Je pense que Théophile Gautier connaissait ses sources. C'est strapazzare, ça veut dire justement travailler très rapidement, une manière un peu négligée. Donc je pense qu'il fait allusion à la touche très rapide, justement.
Michel Hochmann, puisque vous osez me parler de la touche, oui. Vous allez être obligé de me parler du colorito, mot qui vient d'être employé par Guillaume Casgrain tout à l'heure. Et... qu'est-ce que c'est quand ça c'est un jargon de Casgrain, mais qu'est-ce que vous en dites, vous?
Non, c'est pas du tout un jargon de Guillaume, c'est un terme assez général employé à propos de la peinture en Italie. Colorito, c'est disons l'union du coloris, ce qu'on appelle le coloris en français, par opposition à la couleur locale, si je puis dire. Donc tout ce travail qu'accomplissent les peintres à la Renaissance pour faire en sorte que les couleurs se marient ensemble, qu'il y ait une unité picturale dans le champ du tableau.
C'est pas une façon d'appliquer Guillaume Casgrain?
C'est aussi une manière, effectivement, d'appliquer la touche qui peut, dans le cas de Tintoret, être extraordinairement libre et par rapport à une peinture plus finie.
Qui peut être aussi affectée par le support.
Qui peut être affectée par le support, oui.
Une toile plus ou moins grosse. Tintoret aussi a changé la donne avec des toiles à la texture très rugueuse.
Il y a tout ce travail, effectivement, sur l'inachevé qui recouvre un peu cette notion de rapidité dont on a parlé. Et en effet, la peinture sur toile, à l'huile sur toile, est un peu une caractéristique vénitienne, mais c'est vrai que Tintoret a beaucoup joué de la texture de la toile en prenant des toiles souvent assez grossières qui lui permettaient de faire rebondir son pinceau et de rendre précisément la touche visible. C'est sans doute ce qu'ont souligné déjà un certain nombre d'historiens, c'est le moment où le plaisir du spectateur ne vient pas seulement de la représentation, mais vient aussi de la manière dont le travail est fait. Ce travail est laissé volontairement visible pour que le spectateur puisse en jouir, voir la façon dont le peintre a créé son œuvre, en quelque sorte.
C'est ça, ce dont vous parlez, que Francesco Doni appelait le vostro pennello stupendo.
Voilà, c'est ça, hein,
votre pinceau stupéfiant. Étonnant, oui, voilà. Quand vous parlez des toiles, on ne se rend peut-être pas compte que quand on parle des toiles comme celle de Saint-Marc, du miracle de l'esclave, c'est pas des petites toiles, ça fait quel genre de taille
Ce sont des toiles absolument énormes, alors je n'ai pas les dimensions.
Plus de 5 mètres de haut.
Plus de 5 mètres de haut, alors que c'est un tableau horizontal, non?
Oui.
Oui.
Donc, ça fait 5 mètres sur 10, peut-être.
Non, ça fait 5 mètres de long.
5 mètres de long.
5 mètres de large.
5 mètres de large. 5 mètres de large.
Oui,
mais il y a des tableaux de 10 mètres.
Tintoret est même célèbre pour avoir, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vérifié par le livre des records, mais pour avoir peint la plus grande toile du monde, qui serait donc le paradis du Palais des Doges.
Qui était une sorte de composition circulaire absolument enivrante et dans lequel le paradis peut être désiré, puisque de toute façon on n'a pas le choix, on est aspiré par la composition, hein, en quelque sorte. Et alors il y a un tableau, il faut qu'on reste un petit peu dans le début de l'affaire, il y a un tableau du début qui est assez étrange, parce que c'est pas un tableau qui vient du dessus, comme Saint-Marc, comme ça, qui tombe au milieu de la salle, mais qui plonge vers le fond, qui est Jésus chez les docteurs. Est-ce que c'est un tableau que vous avez dans votre exposition ?
C'est un tableau qui sera dans l'exposition.
C'est un tableau très, très important, Cécile, n'est-ce pas ?
C'est un tableau, oui, très important, très étonnant aussi, et qui a été restauré aussi pour le... à l'occasion de l'exposition, donc on va...
Vous pouvez nous le décrire et nous dire un peu ce qu'il a de particulier.
C'est un tableau qui est très surprenant dans sa composition aussi, puisque c'est une fuite, on a une perspective fuyante, et finalement le sujet principal du tableau apparaît au bout de ce point de fuite en petite dimension, alors que le sujet est encadré au premier plan par des grandes figures massives.
Qui sont les docteurs, en fait. Hein.
Non. Au premier plan, on a surtout la Vierge d'un côté, et puis des personnages en train de lire des livres, parce que là, c'est une composition qui fourmille de personnages en train de lire des livres, assis, à moitié allongés sur le sol.
Jésus fait des commentaires sur les Écritures, c'est ça ?
Et Jésus est au centre de la composition, donc...
au fond de ce grand tourbillon qui s'enfonce.
Au fond de ce grand tourbillon, ouais. Domine un petit peu la scène, ouais. Qui est aussi encadré de colonnes qui entraînent notre regard vers lui.
Guillaume Casgrain.
Et dans cette composition, on nous dit qu'il y a un autoportrait de jeunesse de Tintoret qui serait accompagné avec d'un portrait de Titien et qu'il en aurait profité pour... régler l'affaire avec le vieux maître, puisque Titien serait en train de représenter, en train de partir, exaspéré par la peinture qu'il voit. Et il y a une hypothèse qui me plaît beaucoup aussi dans l'autoportrait de Tintoret jeune, qui a été avancée par un autre spécialiste de Tintoret, qui est Rasmus Willingen, qui dit qu'il a beaucoup insisté sur la présentation de son oreille. Et qu'il a une oreille très visible sur laquelle il place un éclat et qui permettrait de signer sa capacité spirituelle et peut-être aussi son don de l'harmonie ou de la composition. Et quand on voit l'autoportrait de jeunesse qui est aussi à l'exposition, qu'on regarde attentivement, l'oreille de Tintoret est extraordinairement bien peinte. Elle est en trois dimensions. C'est très étrange.
Et à votre avis, Michel Hochmann, quand un artiste peint une oreille comme ceci, surtout un artiste musicien, si on en croit à Vasari, est-ce que c'est un intérêt particulier pour la musique ?
Oui, enfin, c'est beaucoup de sources, aussi bien Vasari qu'ensuite Ridolfi disent que Tintoret pratiquait la musique, qu'il avait un goût justement pour différents types d'instruments. Et on sait d'autre part qu'il a probablement aussi été en relation du fait de ses activités avec certains facteurs d'instruments. Venise est un des principaux centres de production d'instruments de musique à l'époque en Europe. Il y a d'excellents facteurs de clavecin, d'excellents luthiers. Et Tintoret a peint plusieurs couvercles a fait peindre dans son atelier plusieurs couvercles d'épinettes, de clavecin, etc. Ce qui montre qu'en effet, il avait aussi, du fait même de son activité picturale, des relations avec des facteurs d'instruments. Oui.
Et est-ce que vous avez senti, l'un ou l'autre, que dans quelques tableaux, cette attention au son serait exprimée ?
Conversion de Saint-Paul.
La conversion
de Cécile Maisonneuve, racontez-nous.
Dans la conversion de Saint-Paul, qui est une composition très. Une espèce de tourbillon, de chaos qui est provoqué par le son de la voix du Christ qui dit à Paul « Mais pourquoi me persécutes-tu » on voit ces personnages, ce personnage à cheval notamment, qui se cache les oreilles et à ses pieds on découvre un tambour dont la peau est percée,
a été percée. C'est le tympanon, vraiment, c'est le tympan.
Voilà,
en fait.
Exactement. Il y a une...
C'est la voix assourdissante
de
Dieu.
Une métaphore, voilà, exactement.
On peut le dire comme ça, Guillaume Casgrain ?
Oui, moi je souscris pleinement à ça, d'autant que c'est un tableau que j'adore, cette conversion de Saint-Paul qui est étrange, parce qu'il plante dans le paysage un énorme escalier, qui n'a absolument rien à faire là-dedans, sur lequel des cavaliers essayent de grimper comme une sorte d'échelle des vertus pour essayer de renverser le pouvoir divin. Et Saint-Paul, sagement, est lui au premier plan sur un morceau d'escalier. Il comprend qu'il ne faut pas critiquer la hiérarchie divine et se laisser faire par la volonté de Dieu. Et donc c'est vrai que c'est une peinture extrêmement sonore.
Alors ce que vous dites me laisse penser que Tintoret, contrairement, donc qui vient après des immenses artistes comme Bellini, Giorgione, Titien, on en a parlé, Est-ce qu'il invente une nouvelle iconographie? En dehors d'avoir une nouvelle manière, une nouvelle puissance, un nouveau désordre, si je puis dire, est-ce qu'il va chercher une nouvelle iconographie?
Alors, il a effectivement des choix iconographiques assez originaux, comme Guillaume l'a bien montré, en effet, à propos de la conversion de Saint-Paul. Ceci dit, je pense que davantage qu'une nouvelle iconographie, c'est une nouvelle manière de représenter qu'il invente. On a parlé de sa nouvelle conception de l'espace, et c'est vrai que par rapport à toute une tradition vénitienne qui déployait des compositions en frise, qui faisait apparaître justement de nombreux assistants aux différents miracles qui figuraient sur les tableaux des confréries, Tintoret conçoit cet espace en profondeur qui lui permet de faire apparaître une nouvelle dramaturgie qui était totalement en rupture avec la tradition du récit vénitien, si je puis dire.
Guillaume Casgrain.
S'il n'invente pas des sources historiques nouvelles, il va quand même faire valoir des registres littéraires différents qu'on n'avait pas encore vu tellement exploités, et certainement pas par Titien, qui lui valorisait les sources élitistes, Ovid, etc. Et on voit, alors on l'a souvent dit, c'était parce qu'il avait été élevé dans ce milieu-là, et son ami d'enfance, qui était Andrea Calmo, était un grand acteur de théâtre qui avait initié ce qui serait un peu la Commedia dell'arte à Venise, donc avec des représentations théâtrales qui sont à moitié improvisées et qui jouent aussi beaucoup sur le ressort burlesque. Et Tintoret a exploité aussi cette veine-là dans beaucoup de représentations classiques, mythologiques, comme Mars, Vénus et Vulcain. Il va utiliser plutôt un registre comique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas littéraire, mais ce n'est pas la même rhétorique sérieuse et élitiste qui pouvait être exploitée par d'autres peintres. Donc, comme si Rabelais arrivait, ou Folingo pour l'Italie, au devant de la scène.
Alors, vous parlez de ce qu'il lisait, de ce qu'il voyait. Alors, je suis obligé de vous demander, Michel Hochmann, que lisait-il? Que lit Tintoret?
On n'a pas beaucoup d'éléments sur sa bibliothèque, malheureusement. On sait en effet, comme le rappelait Guillaume, qu'il était en liaison avec un certain nombre de littérateurs vénitiens, notamment donc en effet Andrea Calmo, qui est un auteur de théâtre et aussi de poésie burlesque en dialecte populaire. Et donc c'est vrai qu'il y a cette dimension souvent dans certains de ses tableaux.
Se pourrait-il que c'est une période où il y a beaucoup de nouvelles traductions des Écritures Saintes, il y a beaucoup de traductions en italien aussi, de Jacques de Voragine, de Légende dorée, par exemple, etc. Est-ce que se pourrait-il que ça l'influence? Et est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait, par rapport à la réforme qui est en train d'agiter, dont le début de la réforme agite l'Europe, se pourrait-il qu'il y ait une influence?
C'est une période de grande tension du point de vue spirituel, en effet, et beaucoup des littérateurs, justement, qui gravitent autour de lui, Anton Francesco Doni, par exemple, ou l'Aretin, ont eu souvent des relations un petit peu compliquées, si l'on peut dire, avec l'orthodoxie. Et d'autres artistes, d'ailleurs, on sait, ont eu des relations aussi compliquées de ce point de vue-là, par exemple Lorenzo Lotto. Tintoret, on n'a pas d'éléments véritablement de ce point de vue-là, mais il est très probable qu'il a été lui aussi placé dans tout ce milieu et que sans doute il a dû avoir aussi des échos de ce
n'est pas lisible dans ces tableaux.
Alors, il y a eu certaines analyses qui ont tenté à le montrer, mais c'est toujours un peu difficile de le montrer si on n'a pas d'attestation véritable. Par exemple, on a cherché à montrer que dans certains tableaux de la Scola de San Rocco, qui est un peu sa chapelle Sixtine, en particulier les tableaux du rez-de-chaussée, il y aurait des échos de certaines littératures justement un peu dissidente, mais à vrai dire, on n'a pas de preuve absolue de ce point de vue-là.
Alors, écoutons un peu de littérature. Écoutons Jean-Paul Sartre, Le séquestré de Venise, 1957.
Belles âmes inquiètes, qui faites servir les morts à l'édification des vivants et surtout à la vôtre, cherchez, si vous voulez, dans sa démesure, la preuve éclatante de sa passion. Il restera que les passions sont aussi diverses que les gens. Il y a les dévorantes et les méditantes, les rêveuses et les soucieuses, les pratiques, les abstraites, les musardes, les précipitées, cent autres. Celle du Tintoret, je la dirais pratique, soucieuse récriminante et dévorante précipitée. Le Tintoret naît dans une ville bouleversée. Il a respiré l'inquiétude vénitienne. Elle le ronge. Il ne sait peindre qu'elle. S'ils étaient à sa place, les critiques les plus sévères n'agiraient pas autrement. Mais justement, ils n'y sont pas. Cette inquiétude, Ils ne peuvent s'empêcher de la ressentir, mais ils ne veulent pas qu'on la leur montre. Ils condamnent les tableaux qui la représentent. Ce qui leur répugne le plus dans les tableaux de Robusti, c'est leur radicalisme et leur vertu démystifiante. Jean-Paul Sartre, 1957.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez l'art et la matière. Nous sommes en train de parler de Jacopo Robusti. On vient d'entendre ce mot dans la bouche de Jean-Paul Sartre, si je puis dire. C'est le Tintoret, ou je me trompe, Michel Hochmann?
Oui, c'est le Tintoret, même si il y a eu des recherches récentes qui ont prétendu que son véritable nom était Comines, mais je trouve ces sources un peu controversées. Enfin,
Donc, pour nos auditeurs, pour c'est nos bien auditeurs, du Tintoret Jacopo... que Jean-Paul Sartre voilà, parlait exactement. Sous le nom de Jacopo Robusti. Et c'était la tradition de changer de nom quand on était artiste?
Souvent, oui, on prenait un surnom, oui, c'est très très fréquent, oui.
Donc Raphaël ne cessait d'être Sandio, par exemple.
Voilà.
Très bien. Et alors, il se passe quelque chose d'important, d'amusant, de significatif, vous me le direz, Guillaume Casgrain. Il y a l'affaire du concours pour la Scuola San Rocco. Et il paraît qu'il s'est mal comporté, le Tintoret.
Mal comporté, je ne sais pas, mais il avait une politique... qui était assez agressive pour vendre ses tableaux, c'est-à-dire qu'il le faisait rapidement, beaucoup plus rapidement que les autres, donc il pouvait les dépasser comme ça. Il copiait, donc on a des exemples où il est prêt à imiter le style de Véronèse si ça plaît plus aux commanditaires.
C'est vraiment... Alors, où est-ce qu'il est, l'artiste sincère, obsédé par son monde intérieur?
Oh, il l'est, mais là c'est une période peut-être plus de jeunesse où il faut faire sa place, son trou. Et moi, j'ai toujours tendance à défendre Tintoret, mais je pense que ça devait quand même pas être simple. Il a avalé pas mal de couleuvres, notamment l'histoire du miracle de l'esclave, où il reçoit quantité de critiques officielles, de l'Arétin qui quelques années plus tôt le félicitait pour sa peinture, donc tout ça en sous-main, téléguidé par Titien, qui ne supportait pas, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, parce qu'il en avait plus besoin du commerce vénitien. Titien, à cette époque-là, il travaillait pour les grandes d'Europe, mais par orgueil sans doute, ça l'agaçait d'avoir un jeune artiste qui pouvait reprendre le flambeau localement. Hein. Mais alors, je suis peut-être un peu critique avec Titien, mais... Parce qu'on parle de Tintoret, mais il y a tout un milieu qui a aussi très influencé le jeune Tintoret, qui a disparu, en tout cas, de la connaissance générale, et qui sont des artistes très influents, très importants. Hein, je pense notamment à Pordenone.
Qui était l'un des concurrents, si je puis dire, sur l'opération San Rocco, de la Scuola San Rocco?
Non. La Scuola San Rocco, ses concurrents, c'était Véronèse. Et un peintre qui était de passage, si je puis dire, qui venait d'Italie centrale, qui est Federico Zuccari. Et donc, Pordenone était déjà mort depuis longtemps. Pordenone
Michel
mort.
Hochmann, ce milieu vénitien que vous aimez tant, c'est un milieu de brigands. Hein,
c'est une ville de commerçants, donc c'est une ville où, en effet, la concurrence était extrêmement forte.
Dites-nous ce qui s'est passé.
Alors, donc, on a demandé, il y a eu une espèce de concours qui a été organisé pour obtenir la peinture donc du plafond d'une des pièces de cette grande confrérie de Venise, qui était la Scuola de San Rocco. Et donc, les confrères ont demandé à plusieurs peintres de présenter des dessins du tableau qu'ils auraient dû exécuter.
Quel était le thème?
Le thème, c'était une gloire de Saint Roch, tout simplement. Et donc, les peintres, les autres concurrents se sont présentés effectivement avec des dessins, mais lorsqu'on est entré dans la salle, on s'est rendu compte que Tintoret avait déjà, lui, peint sa toile et l'avait mise en place, ce qui était évidemment contraire à toutes les conditions du concours. Et donc, beaucoup de confrères ont dit que c'était scandaleux et qu'il fallait refuser la toile. À ce moment-là, Tintoret a réagi en disant « Ah, mais je ne sais dessiner que de cette manière-là ». Et ça, c'est quand même une revendication artistique très, très forte. C'est-à-dire, c'est une prise de position du peintre. peintres qui ont justement le long travail préparatoire du dessin. Ça s'inscrit aussi dans toute une tradition vénitienne, la couleur contre le dessin, si je puis dire. Donc c'était aussi très habile de sa part. Donc je ne sais dessiner que de cette manière-là, en réalisant l'œuvre elle-même et non pas des projets qui sont absolument sans intérêt. Et donc, après tout, je vous offre ce tableau, vous n'avez qu'à le prendre, vous n'aurez rien à payer. Et là, il y a eu encore de violents débats dont on a la trace dans les documents, mais finalement, les confrères ont décidé d'accepter le tableau. Et ce qui fait
qu'ensuite, les confrères ont trouvé que gratuit, c'était pas mal.
C'était pas mal. Et ensuite, par cette rue, c'est vrai que Tintoret a réussi à devenir le peintre exclusif de la Scuola et à peindre là, en fait, son plus grand cycle. Ça s'appelle Sixtine.
Vous dites que c'est le plus grand cycle. Effectivement, quand on rentre dans la s'appelle Sixtine, ce rez-de-chaussée déjà est saisissant avec tous ces tableaux. Cécile Maisonneuve, est-ce que pour vous, cet ensemble de la Scuola San Rocco, c'est quelque chose de très important? Pourquoi? Racontez-nous.
C'est le lieu le plus emblématique de Tintoret à Venise. On est complètement, quand on rentre dans ce lieu, on est complètement submergé par la peinture de Tintoret. C'est presque la Tintoret en stéréo. et ces peintures sont des peintures qui sont aussi extrêmement fortes. Là, j'ai en tête la crucifixion de San Rocco, où il y a ce Christ qui domine le visiteur, on est submergé par cette peinture.
Il y a beaucoup de panneaux.
Il y a trois espaces. Il y a deux salles, la salle du rez-de-chaussée, la salle supérieure et la salle dell'albergo, où se trouve justement la crucifixion.
C'est des panneaux immenses, non?
Ce sont des panneaux immenses. Il y a plusieurs tailles. Il y a aussi des petits panneaux insérés dans le plafond.
Dans le plafond, oui.
Donc de forme ovoïde, de forme rectangulaire, ou des grands panneaux comme la crucifixion sur plusieurs mètres de long.
Ça a été un accueil triomphal, Guillaume Casgrain?
Ça s'est fait très longuement, oui, progressivement, parce que c'est en trois temps, au moins. Hein, c'est... sur plus de
30 ans à peu près.
Ouais, voilà. Donc c'est resté après comme une comme l'expression du génie de Tintoret, parce que c'est rare d'avoir un lieu entièrement peint par le même artiste et sur une période aussi longue. Ça veut dire que c'était vraiment comme sa maison. Et ce qui est aussi impressionnant dans cette scuola et qui témoigne de la singularité du travail de Tintoret, c'est qu'il a fait en sorte d'essayer d'intégrer le spectateur à la dramaturgie, soit de l'épisode de la vie de la Vierge au rez-de-chaussée, soit de la vie du Christ dans l'étage supérieur. Donc dès l'entrée de la scuola, on a à gauche l'Annonciation, et qui est disposée de telle manière à ce qu'on rejoue en quelque sorte l'entrée de l'ange dans la chambre de la Vierge, qui passe une porte comme nous on passe la porte de la salle basse, et il le répète à peu près partout comme ça. Donc il fait évoluer la perception qu'on a de l'image en fonction de l'emplacement qu'on a dans la salle. Pour le massacre des innocents, quand on s'assoit sur les bancs, parce que c'était une salle qui permettait aux Vénitiens de venir s'abriter, de se reposer, on a l'impression que la masse des mers nous tombent dessus.
En fait, c'est une dramaturgie extrêmement physique pour le visiteur. À chaque fois, on est interpellé, presque touché, pas au sens moral, mais au sens physique par les tableaux.
Aujourd'hui, on dirait immersif.
Cécile,
le mot à la mode serait immersif.
Oui, vous avez raison. Nous, dans l'art contemporain, nos installations, on essaye de les rendre immersives pour happer en fait l'attention du visiteur. Et vous trouvez que, au fond, il l'était sur ce territoire-là.
Complètement, oui. Comme disait Guillaume à l'instant, ces perspectives qui nous amènent à faire partie intégrante de l'univers de Tintoret qu'il peint autour de nous.
Et le spectateur recrée en quelque sorte la composition, c'est ça qui est très original, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font ça. Dans la scuola, quand on est dans la salle basse, par exemple, et qu'on voit la fuite en Égypte, il a décalé complètement la Sainte Famille, il y a toute la partie droite du tableau qui est pratiquement un paysage. Donc c'est étrange, mais en fait c'est qu'il y a une des colonnes, et quand on monte à l'étage supérieur et qu'on se retourne, la colonne cache Joseph, ce qui fait qu'on n'a plus qu'une vierge à l'enfant avec un tissu rouge qui annonce déjà la mort du Christ qu'on verra à la salle supérieure. Et quand on monte la volée de marche, on aperçoit déjà le Christ ressuscité comme s'il sortait des marches. Donc à chaque fois une mobilité très grande de l'image en fonction du déplacement physique du spectateur.
Cette instabilité, ce mouvement perpétuel, cette énergie qui est à l'intérieur des images, c'est le baroque. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel ?
C'est effectivement la création d'une nouvelle forme de composition qui aura des conséquences énormes dans la suite. Et c'est vrai que ça a été un des modèles essentiels de toute la peinture baroque. Rubens l'a énormément admiré, l'a copié.
Caravage
également, oui. Aussi bien la conception de l'espace que la conception de la touche et de la lumière sont des éléments décisifs pour la nouvelle peinture qui va suivre. C'est pour ça d'ailleurs que c'est souvent un peintre qui a été, par l'historiographie du 19e siècle et du début du 20e siècle, voire du milieu du 20e siècle, rangé dans la catégorie du maniérisme. Or, je trouve que c'est une erreur dans la mesure où, par rapport justement à tout ce qu'on appelle le maniérisme, c'est plutôt en rupture et ça annonce plutôt le baroque, notamment dans cette conception.
Ce qu'on appelle le maniérisme, c'est l'imitation de Michel-Ange en grande partie. Exactement. En tout cas, c'est substitué à l'imitation de la nature, l'imitation des grands maîtres et de l'histoire de la peinture. Le baroque, c'est plutôt une énergie vitale à l'intérieur du monde,
Artistes. C'est une nouvelle syntaxe, c'est une nouvelle conception de l'espace, notamment de l'espace en profondeur, comme l'a bien montré Wölfflin, et aussi une nouvelle conception de la touche et de la lumière. Donc, de ce point de vue-là, je crois que...
Écoutons Wölfflin.
Voilà.
Au lieu du parfait et de l'achevé, le baroque recherche le changement. Au lieu de ce qui est limité et saisissable, il recherche l'illimité et le colossal. L'idéal de la beauté de proportion s'évanouit. L'intérêt ne réside plus dans ce qui est, mais dans ce qui se transforme. Personne plus que Tintoret n'a rompu avec les exigences de l'art classique, et cela sur presque tous les points. Heinrich Wölfflin, 1915.
Vous êtes sur France Culture et nous parlons de Tintoret que nous venons de qualifier de précurseur du baroque, on peut dire. C'est ce que vous avez osé dire, Michel Hochmann, sans regret ?
Sans aucun regret.
Cécile Maisonneuve, vous avez fait cette exposition avec vos collègues sur la jeunesse de Tintoret, exposition qui est au Luxembourg, qui commence dans 2 jours. Vous êtes arrêté à la jeunesse parce que vous avez l'impression que tout se dit tout de suite, que tout est là, ou c'est parce que c'est une partie qu'il fallait explorer, on la connaissait moins bien ?
Il y a un petit peu des deux. La jeunesse, c'est une période de la vie de Tintoret qui est certainement la moins connue, la plus controversée aussi, qui a suscité de nombreux débats dans l'histoire de l'art. Donc c'était intéressant de revenir sur cette période avec le nouveau regard de Roland Crichel qui a imaginé cette exposition et de raconter l'histoire de ce jeune artiste, de raconter l'histoire aussi de son ascension, comment de ce peintre qui est doté d'une ambition, d'une détermination très forte, comment ce peintre arrive à s'imposer, à gravir tous les échelons et à devenir l'un des plus grands peintres de la République vénitienne.
Un des plus grands peintres d'Europe, probablement.
Je pense qu'on peut pousser jusque-là.
Michel Hochmann opine du chef, oui. Si je puis dire, et vous avez l'air d'accord. Pourtant, vous disiez, vous non pas pourtant, et justement, devais-je dire, vous parliez de son influence sur le Caravage, sur Rubens. On en est sûr ou c'est une impression générale que vous avez ?
Non, on en est absolument sûr, aussi bien du point de vue technique que du point de vue de la reprise de certains motifs. Rubens s'est énormément inspiré de lui.
Donc c'était la parole d'un historien sérieux.
Oui. Je voudrais revenir peut-être sur ce que disait l'instant Cécile. Pourquoi la jeunesse de Tintoret ? Il y a aussi un enjeu qui tient un peu à l'actualité de la recherche. C'est vrai que c'est une période sur laquelle beaucoup de choses nouvelles ont été dites depuis, disons, une trentaine d'années, puisqu'on avait une vision un peu de l'artiste qui avait été constitué par la littérature artistique italienne dans les années 50, justement, notamment par Rodolfo Pallucchini. Et le catalogue qui avait été constitué par Rodolfo Pallucchini a été complètement remis en question. On désattribue un bon nombre d'œuvres qui lui avaient été attribuées dans les années 50, dans les années 60. Et donc, de ce point de vue-là, il était important aussi de remettre tout cela ensemble et de voir un peu quelle était la vérité, si je puis dire, de la jeunesse de Tintoret.
Guillaume Casgrain, vous comprenez la rétractation, le désintérêt de ce grand historien Roberto Longhi sur le Tintoret ? Qu'est-ce qui explique cette réticence ?
Sans doute toute la tradition critique qui a tourné autour de Tintoret pendant cette époque-là. le fait qu'il avait d'autres artistes à privilégier, notamment Caravage. Et bon, il est malheureusement symptomatique de cet oubli, de cette ignorance de ce grand artiste. Et pour des raisons qu'on a un peu évoquées, aussi pour cette sorte d'anachronisme de la peinture de Tintoret, qu'on a quand même du mal à inclure dans une histoire, logique telle qu'on l'a écrite jusqu'à présent, c'est-à-dire Bellini, Giorgione, Titien. Donc si on introduit des artistes comme Tintoret au Pordenone, ben c'est plus complexe, parce que ça veut dire qu'il faut repenser le rapport à Rome, à Michel-Ange, aussi penser le rapport au maniérisme de Mantoue avec Giulio Romano. Donc
c'est un artiste qu'il admirait beaucoup, je crois, Jules Romain, qui est aussi un artiste physique,
Justement, certains des tableaux qu'on a dans l'exposition, qui sont parmi ses premières œuvres, les panneaux qu'il avait peints pour le palais Pisani à Venise, qui sont des panneaux destinés à un plafond, sont directement inspirés par certaines des chambres du palais du Thé peintes par Jules Romain, notamment dans le traitement de l'espace, de l'espace pictural.
Est-ce que c'est un peu un météore, Cécile Maisonneuve? C'est-à-dire, on a l'impression qu'il vient en rupture par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer être l'histoire vénitienne qui se construisait très finement, et puis tout d'un coup, il y a cette violence, cette ambition, cette audace, ce sale gosse qui apparaît et qui dure longtemps, puisqu'il est mort à 74 ans, je crois. Donc il a une carrière longue et convaincante.
Oui, sa carrière longue me faisait. J'avais du mal avec le terme météore que vous avez d'abord employé, mais je souscris à tout ce que vous avez dit ensuite. Voilà, le sale gosse, l'audace, l'ambition qui accompagne son parcours.
C'est. On peut dire un petit peu original comme attitude sociale, celle de Tintoret.
Il y a des aspects, effectivement, Michel, sans doute un peu provocateurs, notamment dans son attitude sociale, précisément, puisque on sait que beaucoup de peintres, à cette époque, revendiquaient un peu un statut aristocratique, disons. Or, les sources nous disent, là aussi, on peut s'interroger sur leur fiabilité, mais les sources nous disent que lui, il revendiquait son aspect populaire, justement. Sa femme appartenait à la bourgeoisie vénitienne et aurait voulu qu'il s'habille à la bourgeoise, justement, pour qu'il affirme un statut social au-dessus de celui des gens du peuple. Et lui, au contraire, faisait traîner volontairement sa toge de bourgeois vénitien dans la boue pour revendiquer justement cet aspect populaire qui aurait été le sien.
J'ai l'impression que vous aimez tous cet enfant terrible, ce voyou merveilleux qu'est le Tintoret. Merci infiniment Cécile Maisonneuve, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Michel Hochmann, merci Guillaume Casgrain.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy, en partenariat avec Le Figaro hors série, en kiosque le 1er mars. Et aujourd'hui, j'ai reçu Cécile Maisonneuve, Michel Hochmann et Guillaume Casgrain pour parler du Tintoret, naissance d'un génie, l'exposition qui se tient du 7 mars au 1er juillet 2018 au Luxembourg et dont les caisses sont en train de s'ouvrir et les tableaux en train de s'accrocher. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Lecture des textes, la belle voix de Lara Brulle, attachée de production Sylvia Favre, merci Sylvia. Une émission préparée par Sixtine de T. Prise de son Bernard Laniel, réalisation, comme toujours, Franck Lilin. La semaine prochaine, je recevrai Brigitte Léal pour nous parler de l'exposition Kupka, qui se tiendra du 19 mars au 30 juillet au Grand Palais. Et à 15h30, vous allez retrouver Joël Gaillot et sa saison au théâtre. Dans quelques instants, Personnages en personne de Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.